France Bleu, dans le rétro l'intégrale, Déborah Grunewald.
Salut à tous, soyez les bienvenus pour une nouvelle balade dans le temps. Moi c'est Déborah Grunewald et comme chaque semaine, on va se téléporter au fil de la vie, de la carrière et au rythme des souvenirs de notre invité. Dans le rétro, c'est parce qu'en parlant d'eux, on parle aussi de nous, de notre époque. On se pose parfois les mêmes questions, on peut avoir les mêmes doutes aussi. Aujourd'hui, c'est un artiste qui n'a jamais eu peur de s'engager. Poète et musicien, il questionne l'amour, le bonheur, l'espoir, le combat, la vie, tout simplement. Mon invité aujourd'hui, c'est Kali, passé, présent, futur. C'est parti, je vous embarque pour un voyage dans le temps. Bonjour Bruno Calissiori.
Bonjour.
Alors Bruno Calissiori dit Kali. Bon anniversaire, 20 ans ça se fête quand même.
Ah merci, ouais.
Bon c'est pas vos 20 ans. C'est ceux de votre toute première... C'est votre premier album, L'amour parfait.
Ouais.
Vous avez réenregistré les titres de cet album avec plusieurs artistes. Ce sont donc des duos et des nouvelles versions authentiques, sans artifice extrait.
La la la, la 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 la, elle m'a dit... La la la, la 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 la.
C'est quand le bonheur,
c'est quand le bonheur,
c'est quand le bonheur.
Alors ça y est, c'est le grand jour, tu t'en vas. Alors ça y est, c'est le grand jour, la la la.
Pensons à l'avenir, bébé. Pensons à l'avenir. Pensons à l'avenir, bébé. Pensons à l'avenir.
Ces titres sont donc dispo sur l'album 20 ans d'amour parfait de Kali. C'est quoi l'amour parfait? Est-ce qu'il existe?
Sûrement. Mais ouais. Il faudra qu'on me le montre quelque part. Non, si, si. Ma théorie, c'est que c'est important de savoir se jeter des assiettes à la tête parfois, quoi. Le matin, pour se pardonner le soir. C'est bien tout déballer, quoi. Qu'il n'y ait rien qui enfle et qu'il n'y ait aucun abcès quelque part. Faut les crever de suite.
L'amour, le vrai, l'amour parfait, ça passe par certaines engueulades aussi, alors?
Ça passe par des engueulades, mais aussi ça passe par du temps, se comprendre, je pense. Hein. Moi, je ne suis pas le meilleur donneur de leçons là-dessus, quoi qu'il arrive. Mais je trouve qu'aujourd'hui, tout va très vite. Et parfois, on a tendance à se séparer pour en oui et pour en non. Je parle des fois avec des jeunes qui me disent je sors d'une longue histoire d'amour qui a duré 6 mois. Je crois que le grand incendie, parfois, ça redevient des braises qu'il faut souffler sur le feu. Et c'est ce feu qui apaise et qui est bien parfois. Ouais, c'est ça.
Vous pensez qu'on fait moins de concessions en amour aujourd'hui?
C'est surtout que j'ai l'impression, encore une fois, qu'on prend moins le temps d'écouter l'autre et de l'entendre, ouais, je pense.
Ça, c'est un problème de société globale.
Global, tout à fait. Ouais, j'englobe tout ça. Ouais, tout à fait.
Est-ce que Kali, l'homme, pas l'artiste, s'est bonifié en 20 ans?
Absolument pas. Non.
Ah ouais? Non. Il faudrait pas, surtout, c'est ça?
Non. Non, c'est clair. Non, c'est. Moi, je jetterais au feu celui qui dit que c'est mieux quand on vieillit et qu'on se. Non, bah, pas du tout. Non. J'étais pas sage, je suis encore moins sage. Et... Non, je pense que je suis moins bien qu'avant, quoi.
Ouais, ah ouais?
C'est sûr, ouais, je
Pourtant,
crois,
on pense justement qu'avec l'âge, on est beaucoup plus posé, plus réfléchi.
Ouais, mais c'est ça.
La maturité, tout ça, quoi.
Ouais, la maturité, posée, waouh, ça nous éloigne de l'adolescence et de cette folie et du feu qui brûle et de se jeter par les falaises, quoi.
Ouais, ouais, mais il faut grandir un peu aussi.
Peut-être.
Sur l'album 20 ans d'amour parfait, on vous retrouve aux côtés de Francis Cabrel, Calogero, Charlie Couture, Pascal Obispo, Benabar, Bernard Lavillier, Olivia Ruiz. Ce sont des artistes qui sont des amis pour vous?
Oui, ce sont des amis. Alors, d'abord, il y avait ces artistes-là qui étaient en poster dans ma chambre. Hein. On parle de ouais, Cabrel, que ce soit Lavillier, avec d'autres. Hein. J'avais des. Que ce soit les Clash ou U2, Simple Minds. Mais ces chanteurs qui sont avec moi, Charles Ellie Couture, on m'a dit fais attention, parce que peut-être un jour tu vas les croiser et tu risques d'être déçu. Et je me souviens bien, quand j'allais au lycée le matin, c'était difficile pour moi. Et leur poster me parlait, leurs chansons me parlaient, ils me racontaient des choses. Et quand j'ai pu les croiser, je suis tombé sur des tellement belles personnes qui ne m'avaient pas menti dans leurs mots.
Ouais. Ces posters, ça vous allégeait la vie, le quotidien?
Ouais, j'ai ce souvenir de ce poster de celui qui va chanter Te salue de Jacques Higelin. Il m'apaisait parce que j'avais l'impression qu'il m'amenait dans son aventure avec lui. Et on vit, on meurt, c'est absurde. Mais partir dans une grande aventure avec Jacques, ça me faisait du bien. Je me disais que la vie était peut-être extraordinaire.
Il y a aussi 2 titres bonus, l'un avec Pascal Obispo et l'autre avec Coco Calissiori. Coco, c'est votre fille. Ce titre avec elle, il parle de quoi?
C'est l'amour parfait. C'était compliqué de chanter cette chanson parce que les mots peuvent On a changé deux, trois petites choses pour pas que ça prête à confusion. Mais pour moi, sur l'album, je chante avec Peter Kingsbury. L'amour parfait, A State of Grace. Il a fait une adaptation en anglais. Et sur le bonus, j'ai dit à ma fille, tu sais, il y a 10 ans, tu as chanté avec moi une chanson qui s'appelle Coco. Tu avais 8 ans. Alors, elle joue du violoncelle sur l'album. C'est une grande violoncelliste, ma fille, et elle est pianiste. Elle joue sur le, et je lui dis, est-ce que tu chanterais avec papa? Et par amour, elle m'a dit oui. Je pense que c'est le regard d'un papa sur sa fille qui découvre l'amour. Ouais.
Vous dites que vous avez fait attention à quelques mots qui peuvent prêter confusion. Ça me fait penser forcément avec Gainsbourg, ouais, et sa fille. C'était un peu le cas. C'est-à-dire qu'il faut faire attention parce que parfois ça peut être mal perçu.
Ce n'était absolument pas par rapport au regard des autres. Rien à faire, quoi, le regard des autres. C'était pour mettre ma fille à l'aise derrière un micro, quoi, et que tout aille bien. Mais elle a confiance en moi. Je pense que si je lui avais proposé des chansons, une chanson en japonais, elle l'aurait chantée pour moi. Ouais.
Sur cet album, Kali, il y a ce titre que tout le monde connaît, c'est « Quand le bonheur ». On va l'écouter dans un instant. Vous y évoquez l'amour sur ce morceau. Est-ce qu'on peut imaginer le bonheur sans l'amour?
Ah non, non, évidemment pas, non. Est-ce qu'on peut imaginer la vie sans amour? Donc juste ça, évidemment non. Le reste, on s'en fout quelque part.
Vraiment?
Ah oui, je pense que quand il y a une petite flamme au fond du ventre, ou quelqu'un qui pense à nous quelque part, et quand on le sait, quand on le pense, alors on a envie encore de vivre. Je crois que tout s'arrête quand tout est sec, qu'il n'y a plus rien, le désert total. Et non, c'est important de... Ce qui me plaît, moi, dans le bonheur, c'est de jamais le toucher, en fait, de l'approcher. Moi, je peux caresser les ténèbres pendant 10 minutes et puis caresser le soleil 10 minutes après, mais me rapprocher du soleil, jamais le toucher. Et si on vous invite pour gravir l'Everest, qu'est-ce qui reste à faire après? Je préfère m'arrêter 10 mètres avant et regarder l'Everest.
20 ans d'amour parfait, c'est l'album de Kali, c'est une tournée aussi. On vous mettra toutes les dates sur la page de l'émission Dans le Rétro. Vous les retrouvez aussi sur kalimusique.fr. Dans le Rétro, notre voyage dans le temps va commencer juste après. C'est Quand le bonheur, nouvelle version, Kali Francis Cabrel sur France Bleu.
Je suis pendu à vos lèvres, espérant le mot, espérant le oui qui sauverait ma vie. Je suis pendu au téléphone, mais qu'y a-t-il de plus moche? Un téléphone à faune qui sonne et personne qui ne décroche.
Je suis pendu à votre cou, dans le plus beau de mes rêves, mais je ne me réveille jamais près de vous et j'en crève. Je suis pendu sous vos fenêtres, au pied de l'arbre. Peut-être demain la petite fleur qui va naître vous racontera mon chagrin.
C'est quand le bonheur,
c'est quand le bonheur,
c'est quand le bonheur,
c'est quand le bonheur. Je suis pendu à cet espoir que vous m'avez soldé. Je suis presque sûr l'autre soir, c'est moi que vous avez regardé. Je suis pendu par les pieds, tout rouge et le souffle coupé. À chaque fois que le hasard me dépose devant votre nez,
je suis pendu à la cravate, dans mon costume croque-macabé. Il paraît que vous faiblissez devant les hommes bien habillés. Je suis tendu, c'est aujourd'hui que je viens vous offrir ma vie. Peut-être oserais-je parler à quelqu'un d'autre qu'à mes pieds.
C'est quand le bonheur,
c'est quand le bonheur,
c'est quand le bonheur. Et puis ce goût amer est venu tapisser ma bouche. Je viens de conquérir son cœur, mais c'est louche.
Car que mieux que ces vieux amants, c'est qu'on perd l'amour aussitôt qu'on le gagne, décidément. c'est pas facile tous les jours.
C'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur.
Cali Francis Cabrel, c'est quand le bonheur, version 2024, dispo sur l'album 20 ans d'amour parfait. Dans le rétro, on commence notre voyage dans le temps avec Cali.
France Bleu remonte le temps, c'est dans le rétro.
Allez, c'est parti, on enclenche la téléportation. Vous naissez à Perpignan. Un an avant votre naissance, votre père Vincent et votre mère Mireille s'installent à Vernay-les-Bains, au pied du mont Canigou. Famille d'exilés, de combattants, de résistants. Quelle empreinte ça laisse sur l'adulte que vous êtes devenu ? Cette histoire familiale.
C'est très très fort parce que ça remonte déjà au-dessus, c'est-à-dire le père de mon père, Giuseppe Caliccioli, qui était un vrai combattant pour le coup. Il était dans les brigades internationales et vous l'imaginez à San Stefano, en Calabre, au sud de l'Italie, et avec ses amis, une vingtaine d'irréductibles. Et il ne voulait absolument pas que d'autres personnes souffrent comme il souffrait en Italie du fascisme de Mussolini. Donc ils prenaient leurs baluchons et ils allaient à travers le monde pour sauver l'opprimé. Ça part de là, ouais. C'est important pour moi parce que mon papa est parti. Quand il est parti, il nous a laissé une lettre. Sur cette lettre, il dit que sa vie était dédiée à son papa pour ces combats-là, ouais.
Est-ce que votre vie est dédiée aussi à votre grand-père, notamment à vos grands-parents et à votre papa, justement ? Parce que vous avez aussi ce côté résistant, révolté, parfois, combattant.
Il y a beaucoup d'atavisme, évidemment. Ce sont beaucoup de souvenirs que j'ai eu le loisir de croquer quelque part. Mon papa avait ce regard de Lino Ventura. Et quand je le voyais, les yeux embués dans des salons fumés où il crachait ses convictions politiques, il m'amenait, moi je le regardais, c'était pas mon papa, c'était quelqu'un d'autre que je voyais. Un jour je l'ai surpris en train de pleurer, en écoutant des mots que je ne comprenais pas, c'était Léo Ferré. Et il m'a dit, tu sais, je suis allé voir cet homme en concert, il s'est fait cracher dessus durant toute une chanson. Et la chanson d'après, les gens applaudissaient à tout rompre, c'était ça Léo Ferré. Et cet homme avait réussi à faire pleurer mon père, donc j'ai aimé cet homme aussi. Ouais.
Ouais, parce que c'est vrai que votre papa, c'était quelqu'un justement de fort, j'imagine.
Ouais.
Et de voir cet homme-là pleurer, ça fait forcément quelque chose.
Oui, et puis j'ai quatre enfants, j'aimerais arriver à sa cheville quant à l'éducation de mes mômes. Hein.
Ouais.
C'est compliqué, éduquer, c'est le plus dur, hein, évidemment. Je fais de mon mieux, mais en tout cas, mon papa m'a offert une phrase, j'étais ado. Et il m'a dit, je sais que tu peux faire toutes les bêtises du monde dans mon dos, je ne le saurais pas, mais je te fais confiance. Et je n'ai jamais voulu trahir la confiance de mon papa. Ouais. Et j'ai fait moins de conneries que d'autres.
Cali, être résistant, c'est donner sa vie pour ses idées. Est-ce qu'il y a une cause pour laquelle vous donneriez votre vie ?
C'est prétentieux de dire ça. Est-ce que si je suis face à la mort, est-ce que je ne vais pas me dégonfler, tout simplement ? Par contre, être le petit soldat d'association qui travaille pour que l'on vive mieux, ou d'ONG. Il y a l'ONG One qui me touche énormément, l'ONG de Bono, par exemple. Contre l'extrême pauvreté ou les maladies évitables, c'est du concret, vraiment. Les migrants. Nous étions une famille d'Italiens après l'Espagne et puis après la France. Et quand je vois l'accueil qui est réservé aujourd'hui à des mômes qui arrivent et qui quittent leur pays en guerre, je trouve ça abject. Des femmes bafouées, violées et des hommes qui veulent simplement juste rester en vie et qui veulent se réfugier dans le pays des droits de l'homme chez nous, ça me bouleverse. Ouais, pour ça, oui, je ferais n'importe quoi pour ça. Quand je parle à mes mômes ou à d'autres enfants, je me dis qu'ils ne vont pas faire les bêtises que nous avons pu faire, toutes ces conneries-là. Ils prennent conscience qu'on ne peut pas avancer tout seul. Ils prennent conscience que si quelqu'un tombe, il faut le relever, parce que c'est à deux et c'est en groupe qu'on peut atteindre le soleil, quoi, c'est clair.
C'est pas utopique ?
Je ne crois pas du tout, non. Non, non. L'utopie, c'est de croire qu'on peut y arriver seul.
Téléportation. Nous sommes en primaire à l'école de Vernay-les-Bains. Votre mère est institutrice et directrice de l'école. Vous vous souvenez avec bonheur de ces instants avec elle. Dans la cour d'école, ta robe est mon refuge. J'aime me cacher dedans. Tu me repousses un peu car tu es une maîtresse, la maîtresse de tous les enfants. Mais tu souris quand même car tu es ma maman. Ton sourire, il n'est que pour moi. J'ai de la chance. Cette chance, on ne s'en rend pas compte un peu tard parfois.
On se rend compte trop tard qu'on a eu cette chance d'avoir une maman. J'ai un ami qui vient de perdre, je pense à Marie-Josée Garand, la maman de la famille jolie, je pense à Alec, à Véronique, voilà, je leur rends hommage aujourd'hui, à Christophe, à Rara, et c'est une dame qui était là quand ma maman est morte et qui m'a accueilli chez elle, j'étais parmi eux, c'était une seconde famille, elle vient de partir là, il n'y a pas d'âge pour partir, elle avait 90 ans, ma mère, moi j'avais 6 ans, mais quelque part elle est toujours là, donc...
Je me rappelle, on en avait parlé ensemble, ouais, vous aviez parlé de cette présence.
Elle est là, le regret, c'est pas du regret, ce sont des envies, des désirs. Parfois, à mon âge aujourd'hui, quand la vie est compliquée, j'aimerais me réfugier, poser ma tête sur ses genoux, voilà, et qu'elle me caresse les cheveux, c'est ça l'idée. Ouais.
À 6 ans, Cali, donc, votre maman est emportée par le cancer, vous n'assistez pas à l'enterrement. Je n'ai pas le droit d'être avec eux, ils ont dit que j'étais trop jeune pour affronter la mort, pas de taille pour être à tes côtés. Marcher avec eux derrière toi. Si, je te le jure, maman, trop jeune pour voir ce truc en bois descendre dans le trou creusé au cimetière. Vous avez l'impression de ne pas lui avoir dit au revoir ?
Elle m'a dit au revoir. Ouais. Elle m'a dit au revoir. Parce
comment ?
Que. Ça devait mesurer quelques heures ou peut-être une journée avant qu'elle parte. Et elle m'a agrippé dans ses bras et elle m'a dit je t'aime. C'était cet au revoir-là. Mais elle m'a dit au revoir, ouais. Moi, je pense que... Je ne lui ai pas dit, évidemment, au revoir, mais je l'ai revue. Je l'ai revue des années après, j'avais 20 ans, et elle s'est éclairée à côté de moi, ouais. Vraiment.
Et à ce moment-là, vous lui avez dit au revoir, vous lui avez dit je t'aime ?
En tout cas, je lui ai offert un sourire qui, quelque part, voulait dire merci pour tout ça.
Certains diront qu'assister à un enterrement, même pour un enfant, c'est important pour faire le deuil. Mmh. C'est ce que vous pensez, vous ?
Oui, je pense que, au-delà de ça, je crois qu'il ne faut pas cacher les choses et il ne faut pas masquer les choses. Il faut raconter, il y a des manières de raconter, mais c'est assez terrible de dire bon, ben, elle est partie, ben, tu n'as pas pu lui dire au revoir, non, on a préféré te...
Protéger ?
Oui, mais protéger de quoi ? Ouais. C'est déjà difficile de ne pas avoir une maman assez longtemps. Et les quelques instants jusqu'au bout, on ne peut pas les voler à un enfant. Ouais. On doit savoir ce qui se passe, on doit savoir où elle est, on doit savoir comment elle est. Et puis quand on va s'agenouiller, se recueillir, ou alors pleurer ou porter des fleurs...
On gueule parfois, c'est ce que vous dites.
On gueule parfois, oui.
La mort de votre maman, vous l'évoquez en 2005 avec le titre Je sais, et en 2023 avec Une maman.
Je voudrais que tu m'aides à m'habiller. Je traîne comme toujours, il faut se dépêcher. Je tends mon pied, tu chausses mon soulier. Le chocolat, les moufles, l'écharpe et le bonnet.
C'est dingue parce que ces gestes que vous décrivez, c'est des gestes anodins, parfois ennuyants. Quand on est maman, on est pressé, on n'a pas le temps et finalement ça prend une place importante, essentielle dans la vie.
Je voulais vous remercier parce que peu de personnes ont entendu cette chanson. Ça me touche beaucoup parce que c'est... Ouais, c'est exactement ça. C'est ces petits détails qui font que l'on construit tout. Ouais. Une maman construit un enfant avec tous ces petits détails, ouais.
Et pourtant, quand on a des enfants, on les presse, on se dépêche. C'est des corvées parfois et finalement, on se rend compte à quel point c'est important.
Ouais, et je peux vous en parler hein, parce que moi j'en ai 4 et je ne suis pas souvent à la maison en fait. Je suis beaucoup sur la route. Donc j'ai la chance d'avoir la mère de mes enfants qui est présente et qui est magnifique. Qui est bouleversante même. Mais tous ces moments parfois où je me dis quelle chance j'ai de recevoir autant d'amour dans le public, tous les soirs. Et puis quand je suis tout seul après dans la loge ou à l'hôtel, je me dis ouais, mais le vrai amour bah ce soir, j'ai pas respiré. Le plus important, c'est les cheveux de ma petite fille. Mmh. Et je lui ai pas fait le bisou qu'il fallait ou raconter l'histoire. Non, je ne sais pas où. Est-ce que ça valait le coup tout ça ?
Cali, on va poursuivre notre voyage dans le temps. À tout de suite sur France Bleu.
France Bleu, dans le rétro, Déborah Grunewald.
Allez, on change d'époque. Nous sommes toujours dans le village de votre enfance, à Vernay-les-Bains. Vous dévalez les pentes à vélo, vous allez vous cacher derrière le mur du lavoir avec votre pote Alec. Alec, votre ami d'enfance.
C'est la première fois, 1, 2, 3, que j'ai dit je t'aime. Et les autres qui nous cherchaient partout. Tu te rappelles, Alec, tu te rappelles.
Pour certains, dire je t'aime à un ami, c'est inconcevable. Le dire, hein, pas le penser ou le montrer, mais le verbaliser. Est-ce que vous comprenez pour certains que ça peut être malaisant, dire je t'aime à un ami ?
Je peux comprendre quoi qu'il arrive. Moi, je n'ai pas cette pudeur-là. C'est-à-dire qu'on a nos âges aujourd'hui et il m'a encore dit je t'aime et je lui ai dit je t'aime, quoi, aujourd'hui. C'est important parce que le je t'aime, ça veut dire, à cet âge-là, à 6 ans, ça veut dire tu seras ma béquille, je serai ta béquille toute la vie. C'est se tailler les veines et puis mélanger le sang. C'est se promettre que rien ne pourra nous séparer. Et ce qui est très beau, on parlait tout à l'heure de vieillir, ouais, il y a quelque chose de beau là-dedans. C'est cette fidélité et se dire que ce que nous avions promis l'un envers l'autre, l'un pour l'autre, on a tenu cette promesse-là, on est toujours là et on s'aime, quoi.
C'est un pacte.
C'est un pacte, ouais. Mmh. C'est un pacte face au reste du monde, parce qu'on ne dit pas « je t'aime » à tout le monde.
Et en plus, c'est difficile de le dire parfois aux amis.
C'est parfois
difficile, ouais. On a une certaine pudeur. Mmh. On le dit plus facilement en couple, dans un couple, qu'un pote, hein, finalement.
Ouais, sûrement, ouais, c'est clair. Mais bah voilà, on en parle, faites l'expérience. Hein. Et regardez les yeux de votre ami et dites-lui « je t'aime », c'est encore autre chose.
Pour vous, Kali, la vie est supportable quand on a un ami. Ça veut dire que la vie est insurmontable si on n'a pas d'amis?
Ouais, ça peut se compter sur les... J'ai beaucoup de relations, beaucoup de cercles comme ça, de gens qui, auxquels je tiens beaucoup. Hein.
Juste des potes, quoi.
Ouais,
pas des véritables amis.
Si, j'aime pas le mot pas véritable. Tout est vrai, en fait. Mais cet ami qui sait exactement pourquoi je n'aime pas le céleri. Il le sait depuis toujours, tout ça. On en a qu'un comme ça.
On part maintenant dans les années 80. Nous sommes au lycée Charles Renouvier, toujours à Vernay-les-Bains. Dans quelques jours, vous allez y donner un concert avec votre groupe. Pour pouvoir jouer, vous dites que vous vous appelez les Lutins Verts. Gros mytho, votre groupe s'appelle Pénétration Anale. Je crois que c'est Jacques Martin qui disait « il faut rester, ne riez pas ». Je sais que vous assumez.
J'assume. C'est Alec qui a trouvé le nom des Lutins Verts et de Pénétration Anale aussi.
Voilà, mais
j'assume. Allez-y, faites-vous plaisir.
Donc votre groupe s'appelle Pénétration Anale. Je crois que c'est Jacques Martin qui disait « il faut rester insolent, la fin de l'insolence, c'est le début de la vieillesse ».
Insolent. Ce qu'il faut, c'est de ne pas faire mal, du mal aux gens, quoi.
Alors, pas être arrogant.
Non, la provocation est importante. Provoquer, c'est attendre un retour, quoi. C'est bien de prendre une gifle en retour, parce que c'est bien tout simplement, quoi. Mais aller chercher la bagarre, aller chercher l'embrouille quelque part, moi j'aime toujours ça, ouais. J'aime toujours parce que si tout est lisse, encore une fois, les journées passent jusqu'au tombeau, quoi.
C'est ça aussi qui fait bouger les lignes aussi d'une société, notamment aussi, parfois.
Je suis pas sûr que le nom de mon groupe ait fait bouger beaucoup de lignes, mais...
Kali, l'insolence est un défaut, mais est-ce que c'est pas parfois justement une force de caractère de pouvoir dire fuck à toutes les injonctions et de sortir du rang, finalement? C'est ça aussi, être insolent.
Ouais, c'est oser dire les choses aussi, quelque part. Je me souviens, je m'étais présenté à des élections municipales deux fois, hein. La première fois, Jeunesse Incorruptible, à 20 ans, et puis quelques années après, j'étais tout seul sur la liste, et ça s'appelait « Ça va chier ». Il y avait une seule affiche autorisée, « Sani Broyeur Municipal », avec un tampon de la poste bientôt dans votre mairie. J'ai fait 20% quand même.
Ah ouais,
ouais. Mais c'était juste pour dire, dans mon village, nous avons besoin d'un club des jeunes, nous ne voulons pas prendre la voiture et aller nous tuer sur des routes pour aller en boîte de nuit, laissez-nous faire ce qu'on veut dans le village. Et c'était bien, c'était de vraies revendications. Ouais.
Il faut faire confiance à la jeunesse.
Toujours. On parlait tout à l'heure d'ONG, de One. Nous formons, ils forment des ambassadeurs, des jeunes ambassadeurs qui peuvent avoir 18 ans, peut-être 20 ans. Ce sont eux qui, quelque part, inquiètent les politiques. Vous savez, quand les jeunes ambassadeurs vont discuter à Bruxelles, vont discuter avec des politiques pour les changements, pour parler de la planète, et pour... ça fait beaucoup plus réfléchir les politiques que si, sont si c'est des vieux grigous comme moi qui allons proférer des choses, quoi.
Les politiques s'en servent aussi des jeunes?
Je ne sais pas si aujourd'hui on peut dire ça. C'est d'ailleurs inquiétant. Se servir, non, mais je trouve ça inquiétant parce que, avec la caisse de résonance des médias qui nous montre tous ces gens qui volent dans les caisses, ou avec toutes ces casseroles, les gens qui nous gouvernent et qui ont aujourd'hui des... Qui sont-ils pour nous donner un exemple qu'ils ne suivent pas? Et les jeunes le voient aujourd'hui. Donc, quand moi je dis il faut s'inscrire sur les listes électorales, aller voter, bah, souvent les jeunes me répondent à quoi bon, pourquoi faire? C'est terrifiant, ouais.
On n'y croit plus, quoi.
Non, on n'y croit plus. C'est pour ça que l'associatif doit être défendu. Parce que l'associatif, c'est quelque chose qui se passe en bas de chez nous.
C'est concret.
C'est concret. Et si on change un quartier, on peut changer la ville. Et si on change la ville, on change le pays. Et si on change le pays, on change le monde.
Dans le rétro sur France Bleu, Déborah Grunewald.
Kali, tout à l'heure, on a évoqué votre maman. Je voudrais qu'on parle de votre papa aussi. On part en 1994. « Nous sommes en Irlande. Là, en haut de la colline, il y a une petite chapelle. Vous vous y recueillez. Un personnage en robe de bure arrive juste derrière vous et vous sourit. Vous détournez le regard vers l'autel, puis vous vous retournez à nouveau. En quelques secondes, il a disparu. Vous dites « C'est mon papa qui me souriait, votre papa pourtant décédé. »
Décédé la veille. Et il y avait cette chapelle en haut de la colline. Donc vous imaginez rien autour. Une seule porte. Une chapelle grande comme notre studio là aujourd'hui. Quand je suis sorti pour le retrouver, pour lui parler, il n'était plus là. C'est papa qui était là.
Qu'est-ce qu'on se dit ?
On se dit « Voilà les anges ». Et on se dit que, en tout cas je me dis, je ne veux pas parler pour les autres, mais qu'il y a quelque chose avant, il y a quelque chose évidemment pendant, mais il y a quelque chose après. Et des gens qui nous protègent, et des gens qui nous amènent sur un chemin qui, vous savez, souvent on a trois portes à ouvrir, laquelle ? Et puis on a cette intuition, on peut dire que c'est l'intuition, ou on peut dire que c'est un petit ange qui nous prend la main et qui nous ouvre la bonne porte. J'ai souvent eu... des très bonnes portes ouvertes. C'était ça, quoi. C'était mon papa, c'était ma maman. C'était eux qui me parlaient. Je plains souvent des amis qui ne croient en rien, en tout cas qui l'expriment. Et j'ai essayé parfois de perdre ma foi. Ça se perd pas comme des pièces qui tombent d'une poche. Hein. Mmh. Non, mmh. Elle est là. Mon papa m'a adoubé. J'en parle parce que c'est important. Pourquoi cette porte aussi de la musique ? J'ai joué avec un groupe, on commençait vraiment à jouer et j'ai voulu jouer dans mon village parce que je savais que mon papa allait partir quelques jours après. Il est venu voir notre concert. Il était très fatigué, assis sur une chaise, à nausée. Il y a eu une pause, l'entracte. Il allait se coucher, il allait se reposer et avant ça, il est venu me serrer très fort dans ses bras. Il m'a dit « C'est ça que tu dois faire. » Voilà. Il m'a adoubé. Et je pense que si aujourd'hui je parle avec vous à cet instant, c'est grâce à ce moment-là. Ouais.
On imagine qu'Ali la douleur de perdre sa maman à 6 ans, perdre son père aussi très tôt, trop tôt. On pleure ces personnes disparues. Vous écrivez dans votre livre « Seuls les enfants savent aimer ». Le chagrin n'est pas un papillon prisonnier, il ne s'envole pas.
En ce moment, je regarde, c'est important ça, bon, je parle à tous les papas, à toutes les mamans. Je montre comme j'ai 4 enfants et la dernière à 5 ans, ma petite Micha. Je commence à lui faire découvrir la petite maison dans la prairie. Ouais. Et je m'aperçois que je pleure encore. Et il y a ces moments de chagrin. Et puis juste après, la lumière qui s'allume. Et puis ça se termine bien. Et c'est important tout ça. Parce que si on a tous les cadeaux du monde, est-ce qu'on sait qu'on a les cadeaux ?
Justement, les pleurs permettent à l'organisme de produire de l'ocytocine et des endorphines, des substances qui soulagent la douleur. Est-ce que parfois, vous vous empêchez de pleurer ?
Jamais. Je ne m'empêche pas de pleurer parce que d'abord, c'est de plus en plus rare. Et ça, je le regrette. Quand je discute avec ma fille Coco, dès que je lui parle de la mort de quelqu'un ou de la mort ou de quelque chose qui peut s'éteindre, elles font en larmes. Jamais je lui dis « arrête » ou « essuie tes larmes ». Non, laisse couler.
Mais un homme ne doit pas pleurer. C'est comme ça qu'on a longtemps éduqué les enfants.
Bon, le courage, c'est de pleurer ses morts, mais d'aller se battre pour ne pas qu'il meure, quoi. Ouais.
Kali, on part maintenant en 2003. Cette année-là, on découvre votre premier album, L'amour parfait. Premier single, c'est Quand le bonheur. Deuxième, Elle m'a dit.
La la la, la 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 la, elle m'a dit. La la la, la 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 la, elle m'a dit.
C'est dingue la différence entre les deux versions.
Ouais.
Entre cette version il y a 20 ans et la version d'aujourd'hui qui est beaucoup plus épurée, Elle m'a dit raconte la fin d'un amour, la rupture. Quand on vient de se faire larguer, le monde s'effondre, on croit mourir. Est-ce qu'une rupture peut être semblable au deuil ?
Ah ouais, complètement, ouais. Une rupture, c'est un vrai deuil. C'est pour ça que accompagner des gens dans ce moment-là, c'est tellement important. Hein. Je me souviens, moi, quand j'étais au collège, il y avait des jeunes de mon âge, et même au lycée, qui se faisaient larguer, ou alors qui, en tout cas, ça se finissait, et qui venaient me voir pour que je leur parle, ou que je leur écrive des mots. Et des mots pour dire je suis là, et puis la roue tourne. J'ai failli appeler mon deuxième album, qui s'appelle Menteur, j'aime pas ce nom, c'est pas moi qui l'ai trouvé.
Ouais.
Je voulais l'appeler L'amour terroriste. Le mot terroriste était trop fort. Je l'ai bien compris, mais pour moi, ça voulait dire être abattu, être laissé, être... à la dérive totalement, donc avoir fini avec la vie et tourner au coin d'une rue. Et puis la foudre, le coup de foudre, le soleil qui nous tombe et qui nous brûle dessus et le corps qui éclate en joie. C'était ça, moi, l'amour terroriste. Ouais.
Pas facile de réconforter un ami quand il vient de se faire larguer. Il faut les trouver, les mots.
Ouais, il faut surtout avoir un lit le plus petit possible pour qu'il vienne dormir avec vous et qu'on puisse se serrer très fort toute la nuit. Ouais. Et accepter ses larmes dans le cou, c'est important, ça. On fait ça, nous.
Vous dites qu'Ali, quand je tombe amoureux, je tombe vraiment. Ça veut dire quoi?
Ben, je me relève pas. Tomber vraiment, c'est ne pas pouvoir se relever. Ouais. Si on se dit je tombe et je pourrais me relever, c'est pas de l'amour. Non.
Et pourtant, quand vous êtes avec votre pote qui vient de se faire larguer, vous allez lui dire relève-toi. Il y a quelque chose de mieux après, quoi.
Non. Je sais qu'il ne pourra pas se relever. C'est moi qui le relève, c'est pas pareil.
D'où l'importance des amis.
C'est ça.
L'amour, ça s'entretient comment, selon vous?
Je suis le plus mauvais des... Je suis sûr qu'on m'appelle la boussole inversée.
Voilà. Mais vous paraissez tellement romantique et tellement poétique.
Oui, mais si je vous donne un conseil, alors faites l'inverse et ça se passera bien pour vous.
Le titre « Elle m'a dit » remis au goût du jour sur l'album « 20 ans d'amour parfait » en duo avec Calogero. On l'écoute maintenant et on revient juste après avec Cali sur France Bleu.
Je crois que je ne t'aime plus, elle m'a dit ça hier. Ça a claqué dans l'air comme un coup de revolver. Je crois que je ne t'aime plus, elle a jeté ça hier. Entre le fromage et le dessert, comme mon cadavre à la mer.
Je crois que je ne t'aime plus, ta peau est du papier de verre. Sous mes doigts, sous mes doigts, je te regarde et je pleure juste pour rien, comme ça.
Sans raison, je pleure, à gros bouillon, je pleure, comme devant un oignon, je pleure. Arrêtons là, la la la, la 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 la. Elle m'a dit, la la la, la 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 la.
Elle m'a dit, je crois que je ne t'aime plus. Relève-toi, relève-toi, ne te mouche pas dans ma robe. Pas cette fois, relève-toi. Tu n'as plus d'odeur, tes lèvres sont le marbre de la tombe de notre amour. Elle m'a dit ça, son sang était froid.
Quand je fais l'amour avec toi, je pense à lui. Quand je fais l'amour avec lui, je ne pense plus à toi.
La la la, la 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 la. Elle m'a dit, la la la, la 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 la. Elle m'a dit.
Je crois que je ne t'aime plus, elle m'a dit ça hier. Ça a pété dans l'air comme un vieux coup de tonnerre.
Je crois que je ne t'aime plus, je te regarde, je ne vois rien. Tes pas ne laissent plus de traces à côté des miens.
Je ne t'en veux pas, je ne t'en veux plus. Je n'ai juste plus d'incendie au fond du ventre, c'est comme ça.
La la la, la 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 la. Elle m'a dit, la la la, la 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 la. Elle m'a dit, la la la, la 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 la. Elle m'a dit, la la la, la 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 la.
Je n'ai pas trouvé le courage par la fenêtre de me jeter. Mourir d'amour n'est plus de mon âge. Elle m'a dit,
thank you.
Elle m'a dit sur France Bleu, Kali en duo avec Calogero sur cette nouvelle version à retrouver sur l'album 20 ans d'amour parfait.
Et si je peux me permettre, je l'ai réalisé ce disque-là avec Steve Naive, le pianiste d'Elvis Costello entre autres, qui joue avec Bowie, Jagger et Springsteen, Bono. Et c'est une énorme chance. Je me dis, j'ai quand même énormément de chance. Il y a 20 ans, la première version, c'est réalisé par Daniel Presley, le cousin d'Elvis.
Ça claque. Hein.
Ça claque, ouais. Et je me souviens de ces mots. Moi, je sortais, j'étais à Perpignan, et il m'a dit, Bruno, avec ces chansons, tu pourras un jour acheter une Ferrari. Ouais. J'ai toujours pas de Ferrari, mais il m'a dit ça, ouais.
Mais en tout cas, vous l'imitez vachement bien.
France Bleu, dans le rétro.
On appuie sur le bouton téléportation, on part en 2008. Cette année-là sort votre troisième album, L'Espoir, sur lequel figure ce titre.
Si je t'écris aujourd'hui, mon enfant de ma nuit, c'est pour que tu saches que si j'ai tout perdu, comme un chien, je me suis battu pour mon droit de t'aimer, comme un papa peut aimer. Ils m'ont laissé errer sans toi dans ma colère. Ils ont piétiné encore une fois le droit des pères.
À l'écoute de ces paroles, j'imagine qu'il y a beaucoup de papas qui doivent se reconnaître.
Ouais, qui se reconnaissent encore. Beaucoup de gens en parlent, beaucoup de papas, mais beaucoup de mamans aussi. C'est important pour moi de parler des deux, parce que ça n'avait rien d'une démarche de SOS papa ou SOS maman. C'était SOS enfant, quelque part. C'est après une rupture, donc j'avais perdu là mon grand qui a 26 ans aujourd'hui, donc j'en parle tranquillement. Il était tout jeune, il avait 2 ans, et j'étais toujours avec lui. En quelques minutes, un juge a décidé que je le verrais plus. Et j'ai voulu tuer, j'ai voulu m'enfuir, j'ai voulu démissionner. Et heureusement que j'avais des sœurs autour de moi, mon frère, des amis.
Qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là? Quand notre enfant nous est retiré, parce que la justice en a décidé ainsi. Alors on ne parle pas effectivement des cas où il y a des divorces, où il y a des violences, où il y a ce genre de choses derrière. Mais quand ça nous arrive, qu'on pense être un bon père finalement, et que la sentence tombe.
On sort du tribunal sous le soleil brûlant de Perpignan, et puis on croise les yeux de la femme qu'on a aimée, et qui est en face de nous, et qui a elle aussi ses avocats. Et elle pleure, elle se dit « Mais pourquoi? Mais j'aurais pas dû ». Ouais. Qu'est-ce qu'on se dit? On se dit que maintenant, avec le recul, je dis moi au papa, la roue tourne. Et un enfant a besoin de ses deux parents. Un enfant pour grandir, pour s'épanouir. Une belle fleur a besoin des deux, quoi. Évidemment que c'est du cas par cas. C'est pour ça que j'ai mené ce combat. On avait cette association, l'amour parfait. Ce combat était important parce que on est allé. J'ai pu parler moi avec le
ministre de la justice.
Ouais, au ministère. C'était important parce que. C'est du cas par cas, vraiment. Moi, quand mon enfant m'a été retiré, la personne qui s'occupait des affaires sociales n'est jamais venue chez moi pour voir comment je pouvais l'accueillir. Et c'était son rôle. Quand je suis allé la voir, elle a pleuré devant moi. Elle m'a dit « Oui, j'aurais dû. Oui, vous ne l'avez pas fait. Mais vous imaginez les conséquences ?» Alors, je me dis que oui, la roue tourne. Et c'est du cas par cas. Un bébé qui grandit au démarrage, évidemment, qui doit être tout proche de sa maman. Et si les parents se déchirent, s'ils ne sont plus ensemble, c'est sa maman qui doit être d'abord près de lui. Mais le papa est là, ouais.
Vous dites la roue tourne, mais quand notre enfant nous est enlevé, il y a ces années qui passent aussi sans être à ses côtés.
Ouais.
Il y a des années ratées, des années d'absence.
J'aime pas parler d'années, je parlerai de secondes. Je parlerai de chaque seconde qu'on nous arrache à notre enfant, de chaque seconde. Et ça, ce n'est pas vivable, ce n'est pas supportable. J'ai vu nombre de, grâce à cette chanson ou à cause de cette chanson, de papas qui m'ont écrit ou qui sont venus me voir. Et j'ai lu le désespoir et la détresse dans leurs yeux, dans leur ventre. La chair de leur chair qui était arrachée, quoi. Donc, c'est peut-être qu'une chanson, mais ce que je peux dire, c'est que chaque fois, il y a longtemps que je ne l'ai pas chantée, celle-là. Ouais. Mais chaque fois que je l'ai chantée sur scène, elle m'a bouffé le ventre.
Cette chanson, Le droit des pères, vous avez été donc au ministère de la Justice avec l'asso Les Papas égale les Mamans, vous avez créé l'association aussi L'Amour Parfait. Vous qui étiez très engagé politiquement, vous vous tournez davantage, vous le disiez, vers l'associatif parce que c'est plus concret. Vous croyez plus en la politique aujourd'hui?
Non. Alors, c'est une phrase comme ça, non, je ne crois plus en la politique qu'on nous propose aujourd'hui. Je pense que les politiciens sont une meute qui se débat, voilà. C'est l'élite, ils se battent entre eux, mais nous, le peuple... En dessous, on les regarde comme un cirque. En tout cas, non, je n'y crois plus. Je ne regrette pas de m'être engagé quand je me suis engagé. C'était pour d'autres raisons. C'était pour pouvoir me regarder dans le miroir et repenser à à mon père et à repenser à mon grand-père. Et comme j'avais un micro, je devais le faire. Ça m'a joué des tours. J'ai perdu. Il ne m'appartenait pas. En tout cas, des gens ont détourné leur regard et leur chemin de Cali, quoi. Voilà, ils sont partis sur autre chose. Et tant mieux pour eux, je vais dire. Mais je ne regrette pas parce que j'ai pu croiser des... Il y a des belles personnes dans tout ça. Attention, hein, je parle de Jack Lang, par exemple. C'est une personne qui n'a jamais trahi personne. Ça reste un ami, c'est quelqu'un qui aide toujours les jeunes aujourd'hui, jusqu'au bout. Qui aide en sous-marin les migrants. Je parle de Jean Castex, qui était le maire de Prades et qui était notre premier ministre. En sous-marin, il m'a beaucoup aidé quand je lui ai parlé des migrants et des gens qu'il fallait absolument protéger. Najat Vallaud-Belkacem, qui aujourd'hui a décidé de quitter ses fonctions politiques pour aller dans une autre, c'est la présidente de One. Donc ces gens-là sont là pour des bonnes raisons. Vous imaginez ces gens qui sortent de l'ENA, qui se connaissent tous, qui se font la bise, et devant nous, dans leur grand théâtre, qui font semblant de s'invectiver, de s'engueuler. C'est dégueulasse, en fait, tout ça. Ouais. Quand on a 100 personnes qui sont capables d'être président de la République, et puis les médias s'intéressent à 20 personnes, et parmi ces 20 personnes, il y a une personne qui va dîner un soir, et on lui dit « Mais pourquoi c'est pas toi ?» Pourquoi ce n'est pas toi qui serais président de la République ? Alors cette personne se regarde dans sa glace le soir, ou le matin en se rasant, et se dit « Mais pourquoi pas moi ?» Parce que si c'est moi, je serai dans les livres d'histoire. Et à partir de là, on a perdu.
Dans le rétro sur France Bleu, Déborah Grunewald.
On parlait tout à l'heure du titre « Le droit des pères ». Vous avez, vous, Cali, 4 enfants. En 2015, sort votre 6e album avec les titres « Popé » et « Coco ». Coco qu'on entend d'ailleurs sur ce titre.
Et quand je veux mourir, je pense à ma souris qui m'embrouille de baiser quand je rentre en lambeau. Une longue tournée. Alors la vie est belle.
Alors elle chante plus que des la-la-la hein, dans, ouais. Dans ce titre, c'est trop mignon d'ailleurs.
Et même à la fin, si vous écoutez la chanson jusqu'au bout, elle raconte un rêve ou je ne sais pas, mais on a tout gardé.
Quand on est parent, on console nos enfants quand ils sont tristes, quand ils vont pas bien. Parfois les rôles s'inversent, ce sont les enfants qui consolent les parents. Ça vous est déjà arrivé ?
Ça m'arrive tout le temps, ouais. Et est-ce que c'est inquiétant ? Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que de plus en plus, mes enfants ont besoin de me parler en tête à tête pour me dire « Tout ça, c'est pas grave, papa. Ça va aller, ça va être bien. » Et comme s'ils me voyaient triste. De plus en plus, ouais. Ils me disent « Tu sais, waouh, t'es... » Je dis « Mais non, maintenant, c'est la place aux jeunes, quoi. Moi, papa, il a fait son temps. Ah non, mon papa... »
Ah, c'est dur de dire ça aussi, finalement. Papa, ouais. Il a fait son temps.
Oui, mais c'est parce que peut-être que j'espère qu'ils vont me consoler juste après. Mais c'est bien parce que j'en avais parlé avec Adamo, le merveilleux, qui est sur le disque, d'ailleurs. Salvatore, que j'adore, le plus tendre des hommes, m'a dit un jour « Faut que tu fasses attention, Bruno, parce que moi, j'ai vécu des belles choses dans le monde entier. » Mais j'étais loin souvent de mes enfants. Et un jour, il m'a dit que ses enfants ne lui ont pas pardonné, mais lui ont dit « Mais tu sais, on t'aime et on sait que t'es là tout le temps et ce que tu fais pour nous est merveilleux. Mmh. » Et ouais, c'est important que les mômes nous disent ça quand même. On en a besoin.
Qu'est-ce qui est le plus difficile dans le rôle de père ?
C'est une énorme, une gigantesque montagne, être papa. Moi, je la grimpe pieds nus, à main nue. J'ai le vertige. C'est quoi le plus difficile ? Ouais, je ne sais pas. Je sais que c'est difficile.
On va continuer notre voyage dans le temps. Vous menez différents combats au sein d'associations. On part en 2020. Vous participez à la campagne numérique Ensemble sur Internet.
Aujourd'hui, plus que jamais, soyons ensemble sur Internet.
Aujourd'hui, plus que jamais, soyons ensemble sur Internet.
Là, ce qu'on vient d'entendre, c'était une campagne dont le but était de lutter contre le harcèlement, les discriminations et la haine sur Internet. Une mesure est en train d'être discutée au gouvernement, déposer les portables à l'entrée du collège. Bonne ou mauvaise idée pour contrer le harcèlement ? On parle beaucoup aujourd'hui des mesures qui peuvent être mises en place.
On a besoin d'idées là-dessus. Une graine empoisonnée a été plantée. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je sais que mes enfants n'ont pas de portable. C'est beaucoup trop tôt. Et puis, on nous a vendu que Internet et puis toutes ces conneries-là allaient nous rapprocher. On n'a jamais été aussi seuls que depuis qu'il y a... Même les... Si je vous parle de musique, Aujourd'hui, les gens composent sur leur ordinateur et enregistrent sur leur ordinateur et ne passent pas par la case « on est en groupe, on s'aime, on s'amuse, on va passer du temps ensemble ». Non, ça n'existe plus. On n'a jamais été autant isolés qu'aujourd'hui, avec leurs conneries. Là. Ouais. Alors oui, c'est bien Oui, préventif, c'est bien de faire attention à nos mômes. J'en parle parce qu'il y a un collège chez moi, à Mias. À côté, c'est le collège où va ma fille. Et nous recevons beaucoup de messages de la part du directeur et des messages de prévention. Et ça fait du bien d'avoir des gens qui font attention à nos mômes. Parce qu'ils font vraiment gaffe à tout ça. Et je les remercie, tiens, à l'antenne. Là, ouais.
Est-ce qu'il faut éduquer plutôt qu'interdire ?
Ouais, bah, à une autre époque, moi, j'ai balancé ma télé par la fenêtre, hein, donc il y a 20 ans. Hein. Et donc, j'en parle à mes mômes, quoi. Et aujourd'hui, c'est pareil. Donc, ça veut dire les écrans niettes, quoi. Et on a le droit de regarder un film, peut-être pas quand on veut, et pas ce qu'on veut. Peut-être c'est un moment de joie, enfin un moment de communion dans la famille, ou peut-être l'enfant a envie de regarder tout seul son film. Mais c'est cadré, ouais, c'est cadré. Et puis, je pense aussi qu'on n'a pas tous les mêmes familles. C'est important d'avoir Il faut parler des instituteurs et des professeurs, il faut les sauver, il faut les protéger.
Les sauver ?
Les sauver, ouais, c'est le mot, je pense.
Les sauver de quoi ?
Les sauver de... Aujourd'hui, ils sont dénigrés, ils sont... quelque part, ils sont là comme une garderie, ils n'existent presque plus, quelque part mal payés, évidemment. Mais surtout, aucun respect, rien. Et je pense que c'est... On n'a pas tous les mêmes familles. Moi, je me souviens quand j'allais à l'école et que j'étais tout seul et que je me retrouvais dans une autre famille. Et mon institutrice, Madame Caz ou Madame Garcia ou Monsieur Nicolo étaient mes papas ou mes mamans. Quand ils expliquaient quelque chose, ne serait-ce que l'éducation sexuelle, hein, quelque part, c'était important de prendre tout ça de leur part et de leur faire confiance.
On les écoute plus assez, on n'est plus aussi attentif.
Ouais,
à puis, ce qu'ils essayent de transmettre.
Oh ben, est-ce qu'on a la capacité d'écouter quand vous voyez des mômes qui sont sur leur téléphone jusqu'à 5h du matin, comment ils peuvent être aptes à écouter quelque chose à l'école, quoi.
Ouais. Les professeurs s'en rendent compte d'ailleurs. Se rendent compte des élèves qui sont trop souvent sur les écrans. Il paraît que ça se ressent en classe.
Ça se ressent en classe. Et puis les professeurs vont dans la rue et les professeurs gueulent. Et on nous propose des mesures absurdes et parfois idiotes pour juste dire on a fait des propositions, on a fait des réformes. Moi, il me tarde qu'un ministre de l'Éducation soit un vrai professeur qui ait encore ses fonctions à l'école et qui puisse concrètement dire ce qui se passe dans sa classe. Ouais.
Cali, on change d'époque. Nous sommes chez un disquaire, même si on n'a plus beaucoup.
Ouais.
Là, dans le rayon, il y a votre album 20 ans d'amour parfait. Vous considérez cet album comme un nouveau disque à part entière. J'ai vieilli, ma voix a vieilli, toutes ces poignées de joie et de chagrin ramassées au bord de la route, ça me va. Est-ce que vous êtes heureux aujourd'hui, Cali ?
À l'instant, là. Je suis heureux d'être avec vous, face à vous. Je suis heureux de parler comme j'ai jamais vu de psy, mais voilà, je peux me livrer comme je peux le faire devant des milliers de personnes en concert. Ce sont tous mes psys. Hein. Je suis heureux, là, dans cette seconde-là. Est-ce qu'il faut aller chercher plus loin ? Non. Ce qui me plaît, moi, dans mon job, c'est que je peux m'attendre à une mauvaise nouvelle ou une extraordinaire nouvelle à tout moment. Et je crois que c'est ce que j'ai choisi. Ouais.
C'est quand le bonheur, c'est aujourd'hui, finalement ?
C'est maintenant.
C'est maintenant. Cette seconde, précisément.
Ouais.
Cali, on termine toujours cette émission avec un bout de musique. De U2, un titre qui a été un élément déclencheur dans votre vie. On va terminer avec vos mots. Chaque recoin de la vie, pour peu qu'on la gratte un peu, regorge d'instants merveilleux. Est-ce que vous arrivez à vivre selon cet adage ?
Ouais. Et quand je n'y pense plus à cet adage, pendant quelques secondes, je me donne moi-même un coup de pied aux fesses. Je veux croquer. Je veux profiter. Je veux faire croquer. Moi, j'ai mes amis, souvent, je leur dis « on meurt demain ». Quand on est en soirée, quelqu'un veut rentrer chez lui ou pour aller se coucher, je dis « tu sais, on meurt demain ». Alors la personne reste... Essayez-le, ça marche. Hein. La personne
ouais, bah
reste avec
pas.
Vous. Ouais. Forti, elle est importante, cette chanson, pour moi. On est le 20 octobre 1984 au Palais des Sports de Toulouse. C'est la dernière chanson
Vous allez faire
YouTube.
Pipi, derrière.
Mais, l'après-midi.
C'est ça.
Et c'est Bono que je vois. Mais le soir, la dernière chanson du concert, c'est Forti. Et Bono dit « on va mettre les amplis à fond ». Et c'était une tornade de son. Et je me suis dit « je vais faire comme le monsieur là-bas ».
Qui a été envoyé justement pour que ceux qui n'avaient pas pu assister au concert puissent bénéficier et profiter de cette musique.
Ouais.
C'était un grand moment de partage.
Vous êtes trop jeune pour avoir vécu ça, non ? Vous n'y étiez pas, non ?
Je vous remercie. Merci, Cali.
Merci.
20 ans d'amour parfait, c'est là, vous vouliez dire quelque chose, non?
Ben, je voulais vous remercier pour cette balade à l'amnésie.
Merci beaucoup. 20 ans d'amour parfait, c'est l'album des débuts, 20 ans après, avec la maturité, le recul, les épreuves et les petits bonheurs de la vie. On va enlever maturité parce que je crois que c'est pas un mot que vous appréciez. Ce sont des duos avec Calogero, Francis Cabrel, Olivia Ruiz, Pascal Obispo, Ibrahim Malouf, Bernard Lavillier, Adamo et plein d'autres. Cette émission et toutes les autres, vous pouvez les écouter en podcast. Sinon, rendez-vous chaque week-end sur France Bleu à 14h. Prenez soin de vous. Salut.